BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour, bienvenue à votre émission qui vous propose un décryptage des sujets majeurs de l'actualité africaine de la semaine. Francis Laloupo, bonjour.
Liliane Niacha, bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci de la fidélité.
Le dialogue inclusif avec toutes les entités de la société guinéenne proposé par le président Alpha Condé sur une éventuelle modification de la constitution ne passe pas. Certains y voient un stratagème du chef de l'État dont le second et en principe dernier mandat s'achève en 2020 pour prolonger son bail à la tête de la Guinée. D'autres soutiennent que le dirigeant guinéen n'a aucune idée derrière la tête. Pour eux, ce projet de révision constitutionnelle est dénué de tout calcul. Qui croire et quelles sont les conséquences possibles d'une telle initiative? Nous en débattrons. Personnage controversé dans la dernière décennie de son pouvoir, l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe est mort à 95 ans, avec près de 40 passés au pouvoir. Héros ou tortionnaire, le père fondateur du Zimbabwe était tantôt célébré, tantôt vilipendé, mais son combat pour l'émancipation de son peuple fait l'objet d'un consensus dans son pays. Quel héritage laisse-t-il à ses concitoyens et à l'Afrique ? On entendra l'analyse de nos invités. Dernier sujet à décrypter, l'annonce du dialogue faite cette semaine par le président camerounais Paul Biya sur la crise anglophone. Depuis 3 ans, les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ont fait de milliers de morts parmi les civils et des forces de défense et de sécurité. Les villes anglophones sont quasiment sous la coupe des hommes armés appelés ambazoniens qui veulent la partition du pays. Ce dialogue longtemps souhaité peut-il réellement permettre de mettre fin à cette crise ? Débat à suivre tout à l'heure, juste après la présentation de notre plateau avec vous, Francis Laloupo.
Oui, il y a notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Conakry, Aboubacar Sylla, ministre des Transports, porte-parole du gouvernement de la République de Guinée, Guinée-Conakry. Monsieur le ministre Aboubacar Sylla, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes par ailleurs un président du parti Union des Forces du Changement, l'UFC. Et avant votre nomination à votre poste ministériel, vous aviez été élu député à l'issue des législatives de 2013 sous la bannière de l'UFDG, le principal parti de l'opposition en Guinée. Et dans le civil, vous êtes ingénieur des mines et administrateur civil. Merci d'être avec nous. Un confrère invité dans cette édition. Au téléphone depuis Yaoundé, Xavier Messé. Xavier, bonjour. Bonjour Xavier.
Xavier, vous nous recevez ?
Il va nous recevoir, il va nous rejoindre, Xavier Messé, directeur de HTV, une chaîne de télévision privée camerounaise. Voilà pour le plateau, Liliane.
Et nous allons commencer, Francis, avec la Guinée. L'opposition et la société civile qui dénoncent l'appel au dialogue lancé la semaine dernière par le président Alpha Condé et qui se mobilisent pour faire échec à cette initiative, parviendront-elles à leur fin ? Depuis quelques mois, elles soupçonnent le président guinéen de vouloir modifier la constitution pour briguer un troisième quinquennat à la tête du pays l'année prochaine. Des accusations que le concerné n'a ni formellement démenties ou confirmées. Mais dans un message à la Nation, mercredi 4 septembre dernier, le professeur Alpha Condé a instruit son premier ministre d'initier des consultations avec les institutions de la République, partis politiques, syndicats et les représentants de la société civile pour, dit-il, recueillir les avis des uns et des autres sur la question de la révision de la Constitution. Il a d'ailleurs ajouté « Tout sujet peut être discuté dans une démocratie ». Monsieur le ministre Aboubacar Sylla, porte-parole du gouvernement, que répondez-vous à ceux des Guinéens et ceux parmi les opposants qui pensent que cette sortie a permis de confirmer, d'après eux, les réelles intentions du président Condé qui sont celles, justement, de modifier la Constitution pour pouvoir rempiler en 2020?
Je crois qu'il s'agit là tout simplement d'un procès d'intention. Je ne vois pas en quoi un appel au dialogue peut être considéré comme un aveu de vouloir rester au pouvoir au-delà de la période qui était prévue dans la Constitution actuelle. Je nuance un peu vos propos de tout à l'heure. Ce n'est pas toute l'opposition, encore moins toute la société civile, qui est contre ce dialogue. À preuve, déjà, les consultations ont commencé. Le Premier ministre, qui est chargé du dialogue social et politique dans notre pays, d'après la Constitution actuelle.
Donc vous direz qu'une partie de l'opposition qui est opposée à cette, qui est contre cette initiative.
Absolument, parce qu'il y a
une opposition dont vous êtes aussi l'un des anciens membres, puisque vous êtes transfus de l'opposition.
J'étais membre de l'opposition républicaine. Je ne le suis plus aujourd'hui. Ceci dit, Je voudrais simplement nuancer ces propos pour affirmer que certains opposants ont déclaré leur intention de répondre à la main tendue par le pouvoir et particulièrement de se rendre à la primature pour exprimer leur point de vue. Parce que nous ne comprenons pas, nous, que l'opposition, une partie de l'opposition, une partie de la société civile, décline un appel à se concerter, à dialoguer, et surtout refuse l'écoute que le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République sont prêts à lui accorder par rapport à ses positions sur des questions qui concernent l'avenir de notre nation. Je voudrais vous parler un tout petit peu de cette constitution qui fait l'objet de beaucoup de controverses aujourd'hui à notre pays. Notre pays, en 2010, depuis 2010, est régi par cette constitution. Elle a été promulguée le 7 mai 2010, au sortir des premières élections transparentes que la Guinée a connues, après le coup d'État qui a eu lieu en 2008 et qui a amené une junte militaire au pouvoir. Peut-être que vous vous souvenez que...
Oui, Dadis Camara.
Dadis Camara, qui après a été remplacé par le général Sékouba Konaté. Et c'est au terme donc de cette transition que les élections ont eu lieu. Et c'est une institution qui avait été mise en place, c'est-à-dire ce qu'on a appelé Conseil national de transition, qui n'a pas fondement légitime, puisqu'il ne s'agissait pas ni d'une assemblée constituante, ni d'une simple assemblée nationale constituée de personnes légitimées par le suffrage universel. On a coopté des personnes et on a décidé ensemble, on a donné notre accord pour qu'une constitution de transition soit rédigée et que tout le monde l'accepte afin qu'on sorte rapidement de la transition.
Monsieur le ministre, en somme, vous essayez de justifier la démarche du gouvernement, vous essayez de nous dire que...
Non, si on n'est pas dans la justification encore, c'était juste là pour que vos auditeurs sachent très bien quel est le contexte qui a amené à tous ces débats qui a animé notre pays pendant 6 mois, et où certains estiment que la constitution actuelle est valable, que c'est une constitution légitime, et que le professeur Alpha Condé tient sa légitimité de cette constitution qui a été à la base de son élection, et puis d'autres estiment.
Donc pour vous, la démarche du gouvernement est légitime. Merci beaucoup. Voilà.
Monsieur le ministre,
certains qui le disent ainsi. Moi, je voulais camper donc un peu le contexte.
Le contexte.
On l'a compris.
Très bien.
Voilà. C'est une constitution donc qui n'a pas été votée, qui n'a pas été légitimée par le suffrage universel. Mmh. C'est une constitution en fait qui a été acceptée simplement parce que les Guinéens étaient pressés de sortir de la transition militaire.
On comprend.
Voilà. Donc ça c'est la première des choses.
Voilà.
Monsieur le ministre, permettez-nous de vous poser les questions pour qu'on puisse faire évoluer le débat.
On comprend bien le contexte, monsieur le ministre, mais moi j'allais vous parler du moment politique choisi pour engager donc cette entreprise, hein, cette consultation, parce que bon, le président Alpha Condé aurait pu engager évidemment cette consultation lors de son premier mandat. Il le fait en ce moment seulement à deux ans hein, de la fin de son mandat, de second mandat,
ce qui amène à un an, puisque c'est l'année prochaine, Francis,
en 2020 effectivement que le mandat expire. Alors, monsieur le ministre, évidemment, tout ça amène ceux qui s'opposent à cette démarche. Cela a pensé qu'il s'agit d'une modification opportuniste de la Constitution. Alors ma question est celle-ci, est-ce que le changement de la Constitution est aujourd'hui un sujet prioritaire pour vos concitoyens, pour les Guinéens, et est-ce qu'il y avait une demande sociale forte et vérifiée à cet égard?
Oui, absolument. Je voudrais d'abord commencer par vous dire, comme je l'ai dit tantôt, cette Constitution a un problème de légitimité. Je crois que ça c'est évident.
Oui, mais enfin, c'est sur cette base que le président actuel a été élu. Hein.
Voilà. Oui, il a été élu au suffrage universel.
Oui,
dans tous les cas, son élection a été légitime.
Et il a prêté serment sur cette constitution.
En dehors même du cadre légal ou constitutionnel qui a servi à cette élection. Mmh. Bon, donc la Guinée est aujourd'hui le seul pays au monde qui est régi par une constitution qui n'a pas fait l'objet d'onction populaire, qui n'a même pas été adoptée par une assemblée nationale quelconque.
Oui, oui.
Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est une constitution qui
a été rédigée. Mais excusez-moi, Francis, vous posez la question du temps, mais les Guinéens n'ont pas l'air de s'en plaindre.
La question surtout, c'est de savoir, je veux dire, pourquoi cela se fait dans une telle urgence.
On pourrait le faire dans
2 ans, dans 3 ans. Il n'y a pas une urgence absolue. La question était de savoir, est-ce qu'il y a une demande forte? Vous dites absolument, mais est-ce que ça a été vérifié? Vous avez fait des sondages au sein de la population pour le vérifier?
Non, je vous dis que c'est une constitution en dehors de son défaut de légitimité qui présente énormément de lacunes et de contradictions. c'est dû tout simplement aux conditions de son élaboration et de son adoption.
Oui,
c'est une constitution qui a été élaborée en à peine un mois.
Il n'y a pas de constitution parfaite, monsieur le ministre.
On ne fera pas faire l'économie.
Il n'y a pas de constitution parfaite, monsieur le ministre.
Voilà.
La question, je vous pose la question sur le moment politique choisi pour engager ce qui ressemble bien à une modification de la constitution. Est-ce que ce moment est pertinent, d'autant que, on voit bien les tensions que cela crée. Est-ce que le rôle du politique n'est pas d'apaiser la société plutôt que d'alimenter les tensions?
Écoutez, nous faisons la part des choses. On évite l'amalgame. Vous avez d'une part le besoin de modifier substantiellement la constitution actuelle. Je ne parle même pas du défaut simplement de légitimité, mais cette constitution présente des lacunes extrêmement graves et nous avons donc estimé qu'on ne pouvait pas aller à un autre scrutin présidentiel et à des scrutins législatifs avec une telle constitution. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons estimé également, nous estimons en tant que gouvernement, parce que le gouvernement a donné son avis quant à l'opportunité de procéder à ce changement de constitution. Donc le gouvernement guinéen, il estime que cette constitution, elle a besoin d'un toilettage très sérieux maintenant. Mais pourquoi maintenant? Je réponds maintenant.
Pourquoi maintenant? Oui.
C'est parce qu'on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps pendant tous les deux mandats du professeur Alpha Condé.
Oui.
On n'a pas eu le temps et le pouvoir et l'opposition d'évoquer la nécessité de changer de constitution. Je vais vous donner le calendrier des élections politiques qui ont eu lieu dans notre pays depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir. En 2010, en fin 2010, le professeur Alpha Condé a pris donc les rênes de ce pays. Et dès 2011, il y a des partis politiques qui sont constitués en une coalition qu'on a appelée le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition. Finalisation de la transition s'entendait par organisation des élections législatives. C'était les partis qui étaient membres de l'alliance du principal chef opposant aujourd'hui, le chef de file de l'opposition. Et ces partis se sont donc constitués et ont amené à des manifestations qui se sont multipliées, qui se sont succédées jusqu'en 2013 pour l'organisation des élections législatives.
Oui.
Finalement, il a fallu changer, réformer la CENI. C'était une des revendications de cette coalition de partis
électoraux.
Il a fallu refaire le fichier électoral. Il a fallu changer l'opérateur technique qui devait donc mettre à jour le fichier électoral, ainsi de suite. Tout ceci a été fait pendant cette période. Nous avons fait les élections législatives en 2013, en fin 2013. En 2014, l'Assemblée nationale a été installée. Et tout de suite, l'opposition encore a recommencé ses manifestations de rue pour exiger que le processus soit totalement finalisé par l'organisation du scrutin local, c'est-à-dire les élections communales et communautaires. Donc là aussi, on a commencé à
faire. Vous n'avez pas eu le temps de le faire. On comprend bien.
Exactement. Oui. Il n'a pas eu le temps de le faire.
D'accord.
Maintenant, qu'il y a l'accalmie.
Mais est-ce que vous ne souhaitez pas, en tant que politique, que lorsqu'on engage une entreprise aussi importante pour un pays, c'est-à-dire la modification de la loi fondamentale, qu'il faut le faire sur la base d'un consensus et surtout dans un contexte apaisé?
Je suis d'autant plus d'accord avec vous que justement, l'objet, je parle de cette émission, c'est de parler de cet appel qui a été lancé par le président de la République et qui a également chargé dans son premier ministre d'ouvrir le dialogue avec toutes les forces politiques et sociales du pays, avec toutes les institutions, pour discuter de cette question. Depuis plus de 6 mois, le problème du changement de constitution
Excusez-moi, monsieur, dans notre pays. Permettez-moi, monsieur le ministre, de revenir et d'insister sur la question de Francis, qui, à mon sens, était celle de savoir est-ce qu'il y a eu des entités qui ont demandé la révision ou le changement de la Constitution. Puisque pour l'instant, il semble que c'est uniquement un projet du gouvernement qui ne rencontre pas l'adhésion populaire, d'où le tollé que cela suscite au sein de l'opposition. Ou vous dites, comme vous voulez, d'une partie de l'opposition et d'une partie de la société civile?
Non, pas du tout. Le gouvernement s'est prononcé sur la question de cette constitution qui est à peine un mois. Et ça fait plus de 6 mois que des groupes venus de tous les côtés, que ce soit de la société civile, que ce soit des groupements politiques, que ce soit des personnes de ressources, s'expriment autour de ce changement constitutionnel. La question, dans un premier temps, était de savoir il fallait réviser la constitution actuelle ou s'il fallait purement et simplement la changer. Mais étant donné le grand nombre de points qu'il faudrait réviser et donc la multiplicité des amendements qui sont nécessaires pour faire de cette constitution une constitution qui reflète effectivement la situation politique, économique et sociale actuelle du pays, tout le monde finalement est arrivé à la conclusion, tout le monde ou presque, Il faut au contraire changer tout simplement de constitution.
Vous affirmez que votre démarche est donc soutenue par une demande populaire. Mais lorsqu'on entend le Front National de Défense...
Il y a beaucoup d'interventions. Oui.
Merci, Monsieur le Ministre. Nous avons compris. Donc, mais lorsqu'on entend, par exemple, le Front National de Défense de la Constitution, qui dit qu'il n'y aura ni consultation, ni référendum, ni troisième mandat, est-ce que vous ne craignez pas que cette crispation de l'atmosphère politique... ne finissent finalement par entraîner la Guinée encore dans le cycle des manifestations qui ont été touché votre pays pendant très longtemps et qui sont soldées par mort d'homme.
Écoutez, si vous vous rendez en Guinée, vous vous rendez compte que c'est une fausse perception.
Ah oui.
Qui est promis par l'opposition, par une partie de l'opposition.
Mais cette opposition existe, monsieur le ministre. Le FNDC existe, le Front National de Défense de la Constitution existe. C'est une partie de l'opinion guinéenne. Vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte.
Comme d'autres. Oui, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que appeler à un dialogue ? Le président de la République demande à ce que chacun vienne exprimer librement sa position.
Vous minimisez la menace du FNDS, dont vous dites qu'il n'y a pas de risque que la Guinée replonge dans des tensions ?
Non, c'est une fausse perception. Il n'y a pas cette atmosphère tendue dans notre pays aujourd'hui.
Oui.
C'est un pays qui est totalement calme. On a l'impression, en écoutant certains médias, qu'il y a une partie de la Guinée qui est contre l'autre et qu'il y a une partie qui s'oppose à ce changement constitutionnel pendant que notre parti le soutient. Mais ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, la Guinée, c'est un pays calme. Oui. Vous n'entendez plus parler de ces manifestations qui avaient eu lieu il y a quelques années. Vous n'entendez plus parler de ces opérations de maintien d'ordre qui dégénèrent et qui amène à des blessés ou à des morts.
Merci.
C'est un pays qui est calme.
Francis, je propose qu'on écoute
C'est peut-être un calme précaire, comme on dit. On va écouter Xavier Messier.
Xavier ?
Oui.
Le débat et les assurances du porte-parole du gouvernement guinéen sur ces consultations relatives au projet de révision de la Constitution.
Mais j'ai comme l'impression, en écoutant le ministre, j'ai l'impression que la rue a fait son effet, la rue a fait reculer le gouvernement guinéen, parce qu'il y a des faits qui précèdent cette nouvelle position qui semble faire reculer le gouvernement. Parce que quand on prend, par exemple, le limogeage du juge, et le fait qui avait attiré l'attention du président lorsque ces derniers prêtaient son serment, il avait attiré l'attention du président sur la révision éventuelle.
Le juge qui est décédé ensuite,
ce dernier avait été limogé dans les jours qui suivaient. Et quand on se souvient également que le 9 janvier exactement, l'ambassadeur de la République soviétique, enfin de la République fédérale soviétique, avait prononcé un discours curieusement dans lequel il avait demandé aux Guinéens, vraiment il était sorti là du rôle d'un chef de mission diplomatique, il avait demandé aux Guinéens, n'est-ce pas, d'adhérer à ce projet de la révision constitutionnelle qui pourrait permettre au président
de briguer un troisième mandat, éventuellement.
Briguer un troisième mandat. Alors, c'est quand même deux sorties qui sont très importantes. Et quand on prend la troisième sortie, le ministère de la Justice, qui est quand même, qui n'est pas n'importe qui, et qui avait claqué la porte, et le ministre chef, Sako, il avait claqué la porte parce qu'il avait dit que il y a des cooptations qui sont en train de se faire dans l'ombre pour réviser la Constitution, alors que lui, en tant que ministre de la Justice, il est mis devant un fait accompli. C'est quand même trois faits suffisamment marquants qui font dire que avec les faits de la rue, qui peuvent amener les gens à comprendre que le gouvernement guinéen, en écoutant le ministre, est en train de reculer.
Merci Xavier. On va marquer une pause.
Le débat. Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Suite du débat avec notre grand témoin invité au téléphone depuis Conakry, en Guinée, Aboubacar Sylla, ministre des Transports, porte-parole du gouvernement de la Guinée-Conakry. Un confrère invité depuis Yaoundé au téléphone, Xavier Messé, directeur de HCTV, chaîne de télévision privée camerounaise. On va poursuivre ce débat sur le projet de modification de la Constitution en Guinée-Conakry. Donc, monsieur le ministre Aboubacar Sylla, alors, on parle de consultation, mais on a le sentiment que la position du pouvoir est déjà définitivement acquise, hein, parce que fin mai dernier, on signale que le Premier ministre Ibrahim Kassori Fofana s'était officiellement prononcé en faveur de cette nouvelle constitution, d'une nouvelle constitution. Et la presse rapporte surtout qu'un document comportant des éléments de langage pour défendre la nécessité d'adopter une nouvelle constitution a été transmis par le ministère des Affaires étrangères à ses ambassades, aux ambassades de Guinée. Alors, à quoi servent des consultations quand on a le sentiment que le gouvernement est déjà en train, je dirais, d'appliquer son agenda, c'est-à-dire la modification de cette constitution? Si à l'issue de la consultation, un avis contraire se dégageait majoritairement, est-ce qu'on peut imaginer que ce projet, que le gouvernement renonce à ce projet?
Écoutez, si ce n'était pas le cas, je crois que le dialogue n'aurait absolument aucun sens. Mais je voudrais répondre à votre confrère qui est intervenu tout à l'heure avant la pause.
Xavier.
Je voudrais dire qu'on parle de recul du gouvernement par rapport à la rue. Il n'y a pas eu de rue et il n'y a pas non plus eu de position officielle du gouvernement. Il y a eu un avis du gouvernement qui a été émis. Et le gouvernement, compte tenu du fait qu'il y avait des avis contraires qui provenaient d'autres franges de la population, a décidé d'organiser une concertation pour apprécier effectivement l'importance d'un camp par rapport à l'autre. Oui. Ensuite, il parle de fait accompli. Il n'y a pas de fait accompli. Aucune décision n'a encore été prise. Oui. Il n'y a aucun fait accompli parce que le ministre de la Justice, il a démissionné pour raisons difficiles à comprendre. Puisque dans sa lettre de démission, il a mentionné qu'il est opposé à tout changement et à toute modification de la Constitution.
C'est ça.
Comment un ministre de la Justice, objectivement, peut s'opposer à une modification d'une Constitution, étant donné que dans tous les pays démocratiques, dans tous les pays du monde, au nom de la République, au nom de la nécessité de s'adapter à l'évolution sociale et politique des pays, modifie les Constitutions.
Xavier a aussi cité le cas de Khalifa Sall, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, qui avait été limogé, puis qui est décédé, semble-t-il, parce qu'il s'était aussi exprimé.
Non,
il avait exprimé son opposition à ce projet.
Vous n'avez pas la bonne information. D'abord, personne ne peut limoger un président d'une Cour constitutionnelle en Guinée, et comme partout ailleurs. Ce sont des mandats qui sont...
Les
membres de la Cour ont relevé, les membres de la Cour, qui avaient le même mandat que le président de la Cour constitutionnelle, ont relevé des manquements graves de sa part. Ils se sont basés sur les textes organiques de la Cour constitutionnelle, ils ont organisé les instances qui étaient appropriées, et ils ont destitué, et un autre président de la Cour constitutionnelle a été élu à sa place, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ces questions du deuxième ou du troisième mandat.
Merci.
Donc ça, c'est tout. Voilà. Je voudrais vous préciser.
Alors, s'il vous plaît, revenez à ma question, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Est-ce que c'est une démarche démocratique, quand on parle d'un débat ouvert, d'un dialogue, que d'envoyer aux ambassades des éléments de langage pour défendre la nécessité d'adopter une nouvelle constitution, c'est-à-dire un seul une seule position de ce qu'on appelle un dialogue? Est-ce que c'est démocratique?
Absolument, le gouvernement est libre d'avoir sa position sur...
Mais les ambassades sont des ambassades ouvertes à tous les Guinéens, à toutes les opinions.
Oui, ça c'était pour clarifier les choses, parce qu'il y avait une polémique qui s'était engagée au niveau du pays, et un amalgame total qui avait été fait entre le changement de constitution et un troisième mandat voulu par le président Alpha Condé, alors qu'il n'en est rien au stade où je m'adresse à vous. Il y a un amalgame complet qui est fait. Pour nous, le débat actuel se limite à l'opportunité ou non de changer de constitution.
D'accord.
On n'a même pas encore de nouvelle constitution. On ne connaît même pas le contenu de la nouvelle constitution pour la simple raison que celle-ci n'a pas encore été élaborée. Le débat actuel, c'est de savoir est-ce que dans les conditions actuelles, la Guinée a besoin d'une nouvelle constitution ou non. C'est ça le débat.
Donc vous expliquez.
Il y aura un projet de constitution et que son contenu sera révélé et que ceci sera l'objet du débat.
Voilà, vous dites que le contenu n'est pas révélé, mais Francis vient de mentionner l'envoi des éléments de langage aux ambassades. Et il faut aussi dire, Francis, que le document a fuité sur les réseaux sociaux. Mais revenons un peu à ce que Francis a dit tout à l'heure concernant le Premier ministre, dont le point de vue sur ce projet est très clair. Il s'est dit favorable à ce projet de révision de la Constitution. Est-ce que pour créer un minimum de confiance entre les partis et garantir la prise en compte réelle des points de vue divergents sur ces consultations, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de confier, d'en confier la direction, c'est-à-dire la direction de ces consultations à, disons, à des personnalités morales et consensuelles, plutôt qu'au Premier ministre dont le point de vue sur la question est connu et exprimé?
C'était une option, mais nous avons choisi de nous baser sur la Constitution. Nous avons une Constitution qui est claire, c'est le rôle du Premier ministre, qui est entre autres celui d'animer et de promouvoir le dialogue politique et social dans le pays et de veiller à l'application des différents engagements que le gouvernement prend vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis de la société civile et des syndicats. Donc c'est ce rôle constitutionnel qui est dévolu, qui a été...
Mais sa prise d'opposition ne risque-t-elle pas de discréditer le processus lui-même, puisqu'on sait qu'il est favorable? Qu'est-ce qui garantit qu'il prendra en compte objectivement les positions des uns et des autres, quand lui-même il en a déjà une?
Encore une fois, le Premier ministre ne prend pas de décision. Le Premier ministre fait ses consultations.
Il influence.
Et il fait le compte-rendu à qui de droit, c'est-à-dire au président de la République, pour dire voici ce qui s'est dégagé de mes consultations. Voilà telle entité ou telle entité ou telle autre qui est d'accord pour le changement constitutionnel, telle autre qui ne l'est pas. Et voici aussi telle autre question, parce qu'il ne s'agit pas, ces consultations ne concernent pas exclusivement que la Constitution. Mmh. C'est toutes les questions de préoccupation nationale qui doivent être normalement débattues, qui doivent être présentées au Premier ministre, et à partir de la synthèse qui peut être faite par le Premier ministre, qui n'est pas seul lors de cette consultation, qui est entouré d'autres personnalités neutres. Et c'est au terme donc de cet exercice-là que le président de la République pourrait prendre une décision concernant telle ou telle question.
Merci.
Que ce soit la question du référendum ou d'autres questions de préoccupation nationale.
Monsieur Abouakassila, vous disiez tout à l'heure que la question du troisième mandat ne se pose pas du tout, donc vous excluiez toute arrière-pensée à cet égard. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que le troisième mandat, que le projet d'un troisième mandat du professeur Alpha Condé est une vue de l'esprit et qu'il faut exclure totalement cette possibilité, je dirais, en 2020?
Moi, je ne parle même pas du troisième mandat, parce que si on change de constitution, on ne parlera plus de troisième mandat, mais on parlera effectivement d'un premier mandat.
Ah oui, d'un nouveau mandat.
Candidat, s'il est élu par le peuple de Guinée, ce sont des conditions.
Est-ce que vous excluez définitivement une nouvelle candidature du professeur Alpha Condé en 2020?
Écoutez, je ne peux pas le dire, évidemment. Je ne peux pas le dire.
Donc vous n'excluez pas.
Aujourd'hui.
Vous n'excluez pas.
Je ne peux pas le dire, parce que ce n'est pas moi qui suis en cause. Un homme d'État comme le professeur Alpha Condé, je crois qu'il est mis par sa propre conscience, il est mis par Dieu, il est mis par ses convictions. C'est dit qu'il
D'accord.
prend une décision de cette importance.
On va reparler du président Alpha Condé. Vous n'êtes pas très clair, hein. Vous maintenez encore le flou, comme lui-même le président Alpha Condé. Voilà. Je voudrais.
Mais je ne maintiens pas le flou, c'est que je ne sais pas.
Vous ne confirmez pas, vous ne démentez pas non plus.
Évidemment, je ne peux pas parler à sa place, c'est évident.
D'accord.
Et ensuite, il me semble totalement prématuré d'évoquer
prématuré,
une situation.
Puisque. Non, on a quelques
mois. Nous ne savons pas d'abord. Si on va rester dans l'optique de la Constitution actuelle, ce qui exclut totalement toute possibilité de candidature du président sortant, ou si, après ces concertations, il y aura éventuellement un référendum qui sera organisé, et nous ne pouvons pas préjuger des résultats de ce référendum. Est-ce que le peuple de Guinée va se décider à adopter une nouvelle constitution? Est-ce que ceci va ouvrir?
Mais on comprend que si on adopte une nouvelle constitution, pour vous, ça remet le compteur à zéro, donc permet au président Alpha Condé éventuellement de se représenter en 2020. Monsieur le ministre, question rapide, on n'a plus le temps, il nous reste à peu près 30 secondes sur ce sujet. Alors, on va reparler du président Alpha Condé qui a appelé à l'organisation des élections législatives avant la fin de l'année en cours. Et en même temps, il engage son Premier ministre à organiser des consultations. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu perturbant? Est-ce qu'on peut tenir les élections avant la fin de cette année et en même temps arriver à se mettre d'accord sur l'opportunité ou non de modifier la Constitution?
Je crois que cela prouve sa bonne foi. C'est-à-dire qu'il n'anticipe pas, il ne préjuge pas de l'organisation des référendums. On ouvre des consultations, et puis, au terme de ces consultations, il sera amené à prendre une décision après avoir recueilli les avis qui ont été émis par toutes les franges de la population guinéenne. On ne peut pas préjuger aujourd'hui de la décision finale qui va être prise, encore moins des avis qui vont être exprimés par les uns et les autres. Donc cela veut dire qu'il n'anticipe pas l'organisation du référendum avant la fin de l'année, mais il estime tout simplement que les élections législatives, elles, ce sont des élections qui doivent obéir à un calendrier électoral, qui doivent avoir lieu.
Avec ou sans nouvelle constitution?
Absolument. Nous avons déjà un code électoral. façon qui régit les élections dans notre pays et qui nous a permis d'aller à des élections, aux élections antérieures, présidentielles, législatives et locales, c'est ce code électoral qui serait utilisé. Donc ça veut dire que le président est de bonne foi, il n'anticipe pas que l'organisation d'un référendum, d'un changement de constitution, mais ce qui est sûr, c'est que les élections législatives doivent avoir lieu, puisque notre Parlement a vu son mandat expirer depuis maintenant bientôt 6 mois.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin invité dans cette édition, depuis qu'on a crié au téléphone, Aboubacar Sylla, ministre des Transports de Guinée-Conakry, porte-parole du gouvernement, et notre confrère invité depuis Yaoundé, au Cameroun, Xavier Messé, directeur de HTV, chaîne de télévision privée camerounaise. Nous allons parler de la mort de Robert Mugabe. Robert Mugabe décédé le 6 septembre dernier à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour où il avait effectué déjà plusieurs séjours médicaux. Et après le rapatriement de la dépouille ce mercredi, de nombreux tiraillements ont été observés entre le gouvernement et la famille du défunt sur la question de savoir quel serait le lieu de l'enterrement. Après avoir annoncé un temps l'enterrement de Mugabe dans son village, les proches du défunt ont finalement accepté que l'ex-président du Zimbabwe soit enterré à Harare, au monument national dénommé Champ des Héros, conformément aux souhaits du gouvernement. Des funérailles nationales sont prévues ce samedi, en présence de plusieurs chefs d'État africains. Et l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, a rendu un hommage dans un tweet à celui qu'il a qualifié de père fondateur du Zimbabwe et aussi d'icône de la libération, mais l'heure est également désormais à l'inventaire du règne controversé de celui qu'on appelait le camarade Bob. On lui écoute avec vous, BBC, un élément sonore.
Oui, Francis, avant de faire l'inventaire, bref inventaire de sa gestion du pouvoir, je vous propose de revenir sur cet élément avec la correspondante régionale de BBC Afrique, Valérie Hirsch, à Johannesburg, qui nous parlait mercredi du rapatriement du corps de l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe.
Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a accueilli la dépouille de Robert Mugabe à son arrivée à Harare cet après-midi.
Our founding father of the nation.
Notre père, fondateur de la nation indépendante du Zimbabwe, notre chef révolutionnaire pendant notre lutte armée pour la libération, icône du panafricanisme, l'homme qui nous a conduits là où nous sommes, nous a quittés.
Panafricanism has left us. The entire nation of Zimbabwe.
Toute la nation du Zimbabwe est attristée et endeuillée, car la lumière qui nous a menés à l'indépendance n'est plus. Mais ses œuvres, son idéologie, continuera de guider cette nation.
La dépouille va d'abord rejoindre la résidence privée à Harare du père de la nation appelé Blue Roof en raison de son toit bleu. Elle sera ensuite exposée jeudi au stade de football Rufaro. C'est dans ce stade que Robert Mugabe avait pris les rênes de son pays devenu indépendant. En avril 1980, l'occasion avait été célébrée par un concert de Bob Marley. Mugabe aurait déclaré le mois dernier qu'il ne voulait pas que le gouvernement organise son inhumation dans le sanctuaire construit sur une colline d'Harare consacrée aux héros de la lutte contre le colonisateur britannique. Valérie Hirsch, BBC Afrique, à Johannesburg.
Merci beaucoup. pour mes questions, pour vous, Monsieur le ministre Aboubacar Sylla. Alors, on le sait depuis plusieurs mois, hein, malgré sa démission, l'ombre de Mugabe planait encore sur l'histoire de son pays. Est-ce qu'on peut dire que c'est maintenant que commencent réellement les années post-Mugabe ?
Oui, je crois qu'on peut le dire. La vie de Monsieur Robert Mugabe est étrangement semblable au parcours politique de M. Ahmed Sékou Touré, le premier président de la République de Guinée, qui comme M. Mugabe, a également mené une lutte acharnée pour le recouvrement de l'indépendance de la Guinée. Hein, la Guinée a été le premier pays francophone indépendant d'Afrique, qui est sorti donc du giron colonial français, avec une lutte politique acharnée contre la puissance colonisatrice française. Et par après, malheureusement, ce sont des régimes qui ont dégénéré, qui se sont transformés en régimes autoritaires, avec le lot de victimes, et le lot de malgouvernance économique et tout. Et tout ceci a mené des pays qui étaient promis à un grand avenir, malheureusement, à connaître un véritable déclin. Et je crois que c'est deux pays qui se ressemblent de ce point de vue. Mais le fait que M. Mugabe peut-être ait changé après sous la pression des événements, parce qu'il a fallu aussi qu'il lance sa réforme agraire et qu'il soit la cible des Occidentaux, que son pays soit isolé, soit sous le coup de sanctions et tout, peut-être pour que son régime se radicalise, lance de même pour la Guinée, la puissance colonisatrice, la France, a voulu faire une leçon à la Guinée. Pour donner l'exemple aux autres pays africains, la Guinée a été isolée, elle a été boycottée, son économie a été sabotée, et la Guinée n'avait d'autre choix que de se replier sur elle-même et de se tourner vers les pays de l'Est, bon, avec évidemment l'autoritarisme qui en a suivi. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui,
Francis,
on peut dire
on
que...
Oui.
Je voudrais demander à Xavier Messi, justement, son commentaire. Xavier Messi, héros de l'indépendance, c'est Robert Mugabe, mais aussi acteur, commanditaire de sanglantes répressions qui ont marqué l'histoire de ce pays. Alors, voilà, question rapide. Héros national ou sombre dictateur, ou les deux à la fois?
C'est les deux à la fois, évidemment. Les deux à la fois, malheureusement.
Excusez-moi, monsieur le ministre. Xavier, allez-y.
Le parallèle avec ce groupe aurait été intéressant. Mais, Xavier Messi.
Je pense que quand on parle de sanguinaire, vous savez, ce sont des mots qui sont prononcés par certaines catégories de personnes, notamment l'Occident. Il faut dire que Robert Mugabe et son héritage est différemment perçu selon qu'on ait moins de 40 ans, ce qu'on soit des pays occidentaux, ou selon qu'on ait un peu plus de 40 ans, c'est-à-dire 50 ans au-delà.
Pour faire simple et court, Xavier Messé, vous voulez dire que l'homme qu'on peint comme étant un dictateur sanguinaire, comme on l'entend dire certains, ce n'est pas juste, ce n'est pas approprié?
On peut reprocher à Mugabe deux choses. Deux. La première, c'est sa longévité au pouvoir. Vous savez, lorsque quelqu'un reste très longtemps au pouvoir, il doit gérer deux ou trois générations de personnes. Et puis, la dernière génération qu'il gère, il ne peut pas leur apporter le bonheur, parce qu'ils n'ont vu que cela. Mais la première génération regarde cette personne-là, ce chef d'État-là, de manière différente. Alors, les termes sanguinaires que je ne peux pas du tout approuver, ce terme-là ont été lancés sur la figure de Mugabe pour l'Occident qui voulait le diaboliser. Mugabe a été...
Mais on entend beaucoup d'Africains reprendre cette expression.
Beaucoup de Zimbabwéens aussi le reprennent.
Oui.
Il y a beaucoup de Zimbabwéens traumatisés qui l'expriment aujourd'hui.
Pour vous, c'est à tort. Malgré tout cela ne remet pas en cause son combat politique.
Oui, mais si vous avez lu ma segmentation, je dis bien qu'il y a même les Zimbabwéens qui ont 25 ans, 30 ans ne peuvent pas avoir un regard positif sur Mugabe.
Ça, c'est ceux qui ont souffert de la répression au début des années 80, la fameuse opération Gukurahundi, on s'en souvient, ceux-là n'ont pas 20 ans, ils n'ont pas 30 ans. Hein. Aujourd'hui, ce sont des quinquagénaires. Au moins.
Mais Francis, si vous allez en France, les gens qui ont été des collaborateurs des Allemands pendant l'occupation, vous diront qu'ils ont subi aussi des exactions. Mmh. Et vous allez constater qu'au Zimbabwe, l'ancienne Rhodésie, dont Mugabe s'est battu pour que son pays devienne indépendant, il y avait des collaborateurs également dans ce pays-là. Il y avait des collaborateurs. Et ces collaborateurs-là, vous savez, on ne peut pas les caresser dans le sens du poil. Ça, c'est incontestable. Maintenant, dire que Mugabe a été un dictateur, vous ne pouvez pas pacifier un pays qui sort de la colonisation avec l'apartheid en Afrique du Sud, avec l'apartheid au Mozambique, que toute l'Afrique australe était maîtrisée par les Blancs qui n'étaient pas du tout des enfants de cœur. Pouvoir tenir un combat à l'intérieur de ce
environnement-là. Certains affirment que les pratiques aussi des colons étaient sanguinaires et étaient presque aussi répréhensibles que celles qu'ils ont par la suite attribuées à Robert Mugabe.
Les pratiques des colons n'ont été que sanguinaires. Je peux vous assurer, Lydan, si vous relisez l'histoire de l'Afrique australe, cette histoire de la Rhodésie du Nord et du Sud, mais il a fallu que Mugabe soit quelqu'un de pointe pour pouvoir mener ce combat qu'il a mené plusieurs fois en prison. Et il a tenu bon. Mais les Occidentaux ne peuvent jamais, ce sont eux qui ont les médias. Ce sont eux qui peuvent porter les propos crédibles. Ils ne peuvent pas dire du bien de Mugabe, pas du tout.
Xavier, pour terminer, avant de passer à notre invité, le ministre, d'après vous, quelle tranche ou quelle facette de Robert Mugabe, finalement, faut-il retenir et peut-être promouvoir afin de sauver son héritage et sa mémoire? Xavier?
Oui.
Vous m'avez entendu?
Non, pas du tout.
Quelle facette de son pouvoir ou quelle tranche de son histoire faut-il finalement retenir et qu'il faut peut-être promouvoir et aussi sauvegarder son héritage?
Je veux dire, pas seulement les Noirs, mais tous les peuples qui ont eu leur dignité bafouée, qui se sont battus pour restituer leur dignité et leur liberté. Tout cela, n'est-ce pas, tous ceux qui ont contribué à mener ce combat-là sont des héros. Et je pense que Mugabe fait partie de ce héros-là. Il a passé toute sa vie à mener des combats, n'est-ce pas, pour la liberté des Africains, pour la restitution de leur dignité. Ça, il n'y a pas d'équivalent. Et ça, c'est ce que nous autres, on a retenu de Mugabe comme un combattant, au même titre, peut-être pas que Mandela, mais ils ont mené le même combat.
Merci.
Merci.
Francis, je peux poser une question à Monsieur le ministre, si vous n'a.
Oui. Alors, Monsieur le ministre, juste avant votre question, si, parce que ça va compléter votre question, Liliane, je voulais juste citer le ministre des Affaires étrangères de Zimbabwe, l'actuel ministre, qui dit ceci: nous exprimons nos condoléances à ceux qui sont en deuil après le décès de Robert Mugabe. Toutefois, les Zimbabwéens ont souffert trop longtemps sous son règne autocratique. Nous espérons que le pays puisse désormais suivre un chemin plus démocratique et prospère. Fin de citation.
Disons que Francis, ce n'est pas la perception, ce n'est pas le même hommage que lui a rendu le président Mnangagwa, mais en tout cas, ça résume un peu bien, voilà, la controverse.
Voilà, il y a la controverse.
Absolument. Mais je voulais poser cette question au ministre qui a fait le parallèle entre Sékou Touré et Robert Mugabe. Monsieur le ministre, on observe très rapidement que très peu de chefs d'État africains lui ont rendu hommage. Comment expliquez-vous cela? Et Mugabe, comme Sékou Touré, mais pas Nelson Mandela, c'est quoi la différence?
Je crois que tout ça, c'est dû à l'usure du pouvoir. Je crois que c'est la trop grande longévité. Lorsqu'on fait 37 ans au pouvoir, on a son parcours qui est découpé en plusieurs tranches, en séquences.
Comme le disait Xavier.
Quand c'est les premières séquences qui sont les plus flatteuses, et que toutes les dernières, qui sont les plus récentes, dont on se souvient le plus, sont les plus mauvaises, il est évident que ce journal n'est pas toujours favorable.
Et c'est ce qui explique la discrétion de plusieurs chefs d'État africains?
Oui, certainement, oui.
Et Guinéen aussi?
Non, le président Alpha Condé a rendu un hommage appuyé à Robert Mugabe, hein, dans le sens que ce fut un grand combattant, celui qui s'est battu pour la dignité de son peuple et de tous les peuples africains, celui qui a tenu tête aux colons, qui a réussi quand même des réformes extrêmement courageuses. Ce n'était pas du tout donné, ce n'était pas évident de s'attaquer à la réforme agraire telle qu'il l'a fait, avec tout ce qu'il a rencontré comme hostilité de la part aussi bien des colons blancs que des différentes puissances qui le soutenaient. Le préfet Alpha Condé a déploré le décès de Robert Mugabe. Et je crois que nous s'inscrivons tous dans ce même sens, tout en n'oubliant pas aussi que M. Robert Mugabe, évidemment, a fait beaucoup de victimes.
Merci.
Au
merci beaucoup, Francis.
Comme c'est presque Cameroun, souvent le cas,
dernier sujet, voilà, au Cameroun, et on va commencer ce sujet avec Xavier. Qui répondra favorablement à l'appel au grand dialogue national sur la crise anglophone annoncé par le président Biya pour la fin de ce mois de septembre? Le dialogue que le chef de l'État camerounais souhaite inclusif pourrait se tenir sans les sécessionnistes radicaux qui ont annoncé, eux, qu'ils ne prendront pas part à ces discussions. Le Premier ministre Diongouté est chargé de piloter ce dialogue, Xavier, selon vous, est-ce qu'il a les coudées franches et les arguments dont il peut se servir pour essayer de convaincre à la fois les réticents, les résistants et même les sceptiques?
J'ai envie de répondre par la négative, parce que, vous voyez, le Premier ministre, il est désigné comme médiateur par le président de la République qui a fait de lui d'abord premier ministre, et puis qu'il a envoyé dans des zones pour aller échanger avec des personnes. Alors ce premier ministre-là ne peut présider ce dialogue qu'en ayant le cahier de charge que le chef de l'État lui a donné. Alors ce cahier que le chef de l'État lui a donné, il y a beaucoup de Camerounais, parmi lesquels moi, qui sont très sceptiques. C'est-à-dire ce cahier de charge ne réunit pas toutes les conditions qu'il faut pour qu'un dialogue soit ouvert, sincère et équitable.
Qu'est-ce qu'il manque?
Il manque que pour aller vers un dialogue, il faut d'abord un préalable, inscrire les sujets sans tabou. Il faut que tous les sujets qui constituent des problèmes soient inscrits à l'ordre du jour. Ça, c'est il faut définir le format du dialogue. Troisièmement, il faut définir les profils des gens qui vont assister à ce dialogue. Et puis, à mon avis, il y a beaucoup de Camerounais qui pensent comme moi, il faut confier la direction de ce débat à une personne neutre.
comme Christian Toumi, le cardinal Christian Toumi, personnalité morale respectée et anglophone, qui aurait pu peut-être être la caution morale.
Christian Toumi est souvent regardé par le pouvoir avec beaucoup de suspicion. Le pouvoir le respecte, le regarde avec beaucoup de suspicion, il est respecté, ça c'est vrai. Mais pourquoi ne pas prendre une personnalité étrangère? Vous avez vu ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Edem Kodjo était parti. Vous avez vu ce qui se passe dans d'autres pays. On n'est pas obligé.
Edem Kodjo n'a pas non plus réussi, Xavier. On ne va pas refaire. Mais il n'a pas non plus réussi.
Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Certes, il s'y est rendu. Mais je pense que s'il faut absolument choisir une personnalité locale qui est respectée de part et d'autre, vous avez cité le nom de puissants publics qui peut faire l'unanimité. Mais jusque-là, la désignation d'une personne qui va modérer le débat, ça ne suffit pas. Il faut que tous les sujets sans tabou soient inscrits.
Merci. Et or, le président de la République a exclu toute idée de partition du pays, de sécession. Francis ?
Oui, alors, Xavier a répondu
pratiquement. Le fédéralisme ne signifie pas la partition du pays.
Bien sûr. Xavier a répondu à pratiquement toutes les questions que je voulais lui poser, hein, sur les acteurs du dialogue, le format de ce dialogue, la question des sujets, le fait qu'il ne faudrait pas y avoir de sujets tabous. Alors, je vais peut-être demander à Boubacar Sylla, monsieur le ministre, il y a quelques jours, une peine de prison à vie a été prononcée contre le dirigeant des séparatistes anglophones, Julius Ayub Tabé, et 9 de ses partisans par le tribunal militaire de Yaoundé. Quelques jours plus tard, donc, le président Paul Biya présente cette offre de dialogue. Est-ce qu'on peut convaincre tous les acteurs de cette crise, y compris les séparatistes, de la sincérité de cette offre de dialogue, quelques jours après seulement cette condamnation?
Moi, je suis quelqu'un qui... Je suis un républicain, je suis un démocrate. J'estime que, quelle que soit l'acuité d'une crise, il est possible de la résoudre par le dialogue. Je pense que, comme on l'a fait à Guinée, comme on est en train de le faire à Guinée, je pense que l'appel au dialogue est une très bonne initiative du président Paul Biya. Mais cet appel au dialogue doit être aussi associé à une offre d'amnistie. Vous parlez tout à l'heure de certaines personnes qui ont été condamnées, certains sécessionnistes, s'il s'agit d'une crise aussi grave. Je pense qu'effectivement, on peut envisager, dès le début, avant même que le dialogue n'ait lieu, on peut envisager, quand le dialogue a lieu et qu'il aboutisse à des conclusions, des recommandations qui permettent d'apaiser la situation, on peut proposer effectivement que la question de l'amnistie des personnes arrêtées et emprisonnées soit effectivement un des points d'ordre du jour du dialogue.
En tout cas, le président l'a promis pour ceux qui déposeront les armes. Xavier, en 30 secondes pour terminer avec vous sur cette question, certaines craignent aussi que 2 semaines pour préparer ce dialogue, c'est très court, mais je voulais aussi évoquer avec vous l'aspect lié à l'initiative helvétique qui était en cours. Est-ce que le dialogue signifie que cette initiative prise par les Suisses de servir de médiatrice entre le gouvernement et les sécessionnistes est perdue?
Vous savez... Le principal responsable de toute initiative qui pourrait se passer face à cette crise-là, ça revient au chef de l'État. Ça revient au chef de l'État Paul Biya. Tant qu'il n'est pas mêlé à quelque initiative que ce soit, qu'elle soit suisse, qu'elle soit américaine, qu'elle soit française, tant qu'il n'a pas donné son feu vert, rien ne bougera. Et on peut vous dire que nous avons quand même pour analyser le présent, il faut connaître le passé. Mais évidemment, vous avez vécu les réticences du président de la République par rapport à la tripartite qu'il avait organisée en 91, en 92 et 89. Qu'est-ce qui s'est passé? Les résolutions qui ont c'est exactement le même format qui est
appliqué. Merci Xavier. Pour vous, c'est la tripartite bis qui avait échoué et le dialogue échouera aussi. Merci,
pardon,
Francis.
Pardon, Xavier. C'est le moment d'écouter le message de nos amis sur Internet. Un message recueilli et livré tout de suite par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Guinée, Tidiane Botegueba se demande comment une constitution qui a permis au président Condé de se faire élire deux fois de suite peut devenir obsolète du jour au lendemain, surtout à un an de la fin de son deuxième et dernier mandat. Charles Bazema, lui, estime que l'urgence pour la Guinée actuellement n'est pas une révision de la constitution, mais plutôt l'accès aux soins, à l'éducation, à des infrastructures de qualité et à la sécurité alimentaire. Mamadou Lamaranba lui affirme que tout ce débat autour de la révision de la Constitution a un seul but, celui de maintenir Alpha Condé au pouvoir. Pour lui, la nouvelle loi fondamentale va remettre les compteurs à zéro et permettre au président actuel de s'éterniser au pouvoir. Mugabe Barma Vincent estime que Mugabe fut un nationaliste qui a sacrifié toute sa vie pour son pays. Même s'il a échoué sur certains aspects, il fait partie des héros africains. Les jeunes dirigeants doivent prendre exemple sur les aspects positifs de la gouvernance de Mugabe. Cameroun pour Sangaré Albert, Paul Biya doit comprendre que l'heure n'est pas au dialogue, mais plutôt à une alternance, qu'il écoute la voix de sa conscience afin de laisser le Cameroun dans la paix, comme le lui a laissé son prédécesseur. Merci à Bichara Amadou, Sombo Niekema et Abdul Hakim Abdidala qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Afrique-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous aussi, Ladislas. Didier et Ladislas Lando, merci beaucoup. Aboubakar Sylla, rapidement, beaucoup de questions sur la constitution guinéenne, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous livrer une réponse générale en 30 secondes, s'il vous plaît?
Ben, je demanderai tout simplement à tous ceux qui ont suivi cette émission d'être d'accord avec moi que c'est le dialogue qui est la clé pour ouvrir la solution à toutes les crises. Le gouvernement guinéen, le président Alpha Condé, appelle les Guinéens à dialoguer, à se concerter. Chacun peut venir avec son idée, exprimer sa pensée, exprimer ses positions. Et je crois que tout cela doit se faire dans le calme, dans la paix et dans la sérénité.
Merci.
Ce qui est dit aujourd'hui pour ce qui concerne cette constitution, c'est beaucoup plus un procès d'intention qu'autre chose. À ce stade d'aujourd'hui, on est au stade de l'opportunité ou non de changer de constitution.
Merci.
Il y aura une deuxième phase qui va intervenir. Quand on aura une nouvelle constitution, est-ce qu'on va voter pour cette constitution? Est-ce qu'elle contient tous les éléments qui intéressent chaque frange de la population guinéenne ou non? Et puis il y aura après un troisième débat. Est-ce que le professeur Alpha Condé va être candidat ou ne sera pas? Et ça, je crois qu'il faut savoir séquencer les choses et éviter l'amalgame. La Guinée a besoin d'une nouvelle constitution. La Guinée a besoin d'une nouvelle constitution. La Guinée a besoin d'une constitution qui soit l'émanation de la volonté du peuple de Guinée,
oui.
Non d'une constitution qui a été imposée pour passer un cap difficile.
Vous l'avez dit.
Qui était une transition militaire.
Aboubakar Sylla, merci d'avoir été notre invité. Aboubakar Sylla, ministre des Transports de Guinée-Conakry, porte-parole du gouvernement. Merci également à notre confrère Xavier Messé, directeur de HTV, la chaîne de télévision privée camerounaise. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par Hugo Vallière, chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine sans Liliane Niacha qui va prendre des vacances.
Et moi, rendez-vous dans 3 semaines, Francis Laloupeau. Oui. Vous m'avez envoyé en mission. Oui. J'y vais avec plaisir. Au revoir.
C'est une mission, une joyeuse mission en tout cas. Profitez-en bien, Liliane. À bientôt.
Merci, Francis. Au revoir.